Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la partie vocabulaire du module 110 au sujet du musée du Louvre. C'est un musée qui est vraiment incroyable. Je l'ai visité quand j'étais plus jeune. Ce musée est vraiment une sortie scolaire incontournable. J'en ai peu de souvenirs, je vous avoue, et ce module m'a donné envie d'y retourner et de le redécouvrir. J'espère que ce module vous a plu, en tout cas, et qu'il a attisé votre curiosité. Dans cette partie vocabulaire, on va voir ensemble les mots de vocabulaire qui peuvent paraître un peu compliqués et qui n'ont pas été expliqués dans le module. N'oubliez pas également de consulter le fichier prononciation afin de vous entraîner à prononcer les phrases en français. Installez-vous confortablement et nous allons commencer avec le premier mot. C'est le mot incontournable dans la phrase et parmi les choses incontournables à visiter dans la grande ville française, dans la capitale, eh bien nous avons le musée du Louvre. Alors dans cette phrase, eh bien le mot incontournable signifie quelque chose qu'il ne faut absolument pas manquer, quelque chose de très important ou voire même d'essentiel. Donc dans le contexte de la phrase, eh bien cela signifie que le musée du Louvre est un lieu indispensable à visiter. C'est une attraction entre guillemets majeure qu'il est presque impossible de ne pas visiter lorsqu'on est à Paris. Le deuxième mot est le mot œuvre dans la phrase. Il abrite plus de 33 000 œuvres dont la Joconde de Léonard de Vinci. Alors le mot œuvre, ça désigne en fait les créations artistiques. Ça peut être des peintures, ça peut être des sculptures, des objets d'art, des dessins, etc. Donc dans cette phrase, eh bien le mot œuvre, il fait référence aux différentes pièces d'art qui sont exposées au musée du Louvre, dont la Joconde, qui est une peinture très célèbre de Léonard de Vinci. Le mot suivant est le mot chef-d'œuvre. Dans la phrase, on va parler de 5 chefs-d'œuvre. D'ailleurs, cette phrase fait partie du fichier prononciation, alors n'oubliez pas d'aller le voir. Dans cette phrase, donc le mot chef-d'œuvre, eh bien, il désigne les œuvres d'art, les créations ou encore les réalisations qui sont considérées vraiment comme exceptionnelles. Et qui représente du coup le summum, le max entre guillemets, de la maîtrise artistique ou technique. Donc en d'autres termes, eh bien quand on parle de chefs-d'œuvre, ce sont des œuvres qui sont particulièrement admirées pour leur qualité ou encore pour leur beauté, pour leur importance, etc. Donc dans ce contexte, eh bien il s'agit de discuter ici dans le module de 5 œuvres qui sont particulièrement remarquables, qui sont particulièrement importantes et connues. Le mot suivant est le mot règne. Dans la phrase, cette forteresse a été construite sous le règne de Philippe Auguste, donc un roi de France. Donc ce mot, règne, il fait référence à la période durant laquelle un roi ou une reine exerce le pouvoir sur un pays. Donc le fait de régner, ça désigne le fait d'exercer le pouvoir sur son pays. Donc ici, ça désigne en fait la période pendant laquelle Philippe Auguste était roi de France et avait du coup l'autorité pour gouverner le pays. Donc dans la phrase, eh bien ça indique que la forteresse, elle a été construite pendant la période où Philippe Auguste était le souverain, le roi du pays. Voyons maintenant ce que signifie le mot rempart. Dans la phrase, c'était une tour militaire qui était censée protéger la capitale, il y avait des remparts, etc. Donc ce mot, eh bien, il désigne des murs ou encore des fortifications qui sont construits autour d'une ville ou autour d'une forteresse pour la défendre contre les attaques. Donc les remparts, eh bien, ce sont des structures de défense qui sont souvent assez hautes et qui sont conçues en fait pour protéger la ville, ou du moins qui étaient conçues pour protéger la ville des envahisseurs de l'ennemi. Donc dans ce contexte, eh bien, il faisait partie des éléments de protection autour de la capitale. Voyons maintenant le mot vestige dans la phrase. Et aujourd'hui, les vestiges de cette forteresse sont encore visibles au niveau du sous-sol du musée. Donc ce mot vestige, il fait référence au reste, du moins à ce qu'il reste, aux traces qu'il reste, aux éléments de la structure donc, dont on parlait auparavant, qui a partiellement disparu ou qui n'existe plus dans son état original. D'accord ? Donc ici, quand on parle de vestige, c'est les parties restantes de la forteresse ancienne qui sont encore visibles, même si en elle-même la forteresse n'existe plus en tant que telle, il reste tout de même des restes, des vestiges. Le mot suivant est le mot renaissance dans la phrase « Au moment de la renaissance, le château fort a été rasé ». Donc ce mot renaissance fait référence en fait à la période historique qui s'est déroulée en Europe, principalement entre le 14e et le 17e siècle. Donc cette période, elle est vraiment marquée par un renouveau de l'intérêt pour l'art, la culture, la science, la philosophie, etc., inspiré par l'Antiquité classique. Donc dans ce contexte, la Renaissance, eh bien, ça désigne en fait tout simplement l'époque à laquelle le château fort a été démoli. Donc la phrase, elle indique que c'est pendant cette période de renouveau culturel et architectural que le château a été rasé, qu'il a été détruit. Le mot qui suit est le mot précurseur. Dans la phrase, la Renaissance, ça a été une grande période en Italie où, en tout cas, les Italiens ont été les précurseurs et les Français ont copié ça. Donc le mot précurseur, il me semble qu'on l'a vu dans un module précédent, ça désigne des personnes ou des groupes qui ont initié ou développé quelque chose avant les autres. Donc ça ouvre la voie à de nouvelles idées, à de nouvelles pratiques, à de nouveaux mouvements. Donc ici, précurseur, ça fait référence aux Italiens qui ont été les premiers à développer les idées et les innovations culturelles, artistiques, scientifiques, etc., caractéristiques de la Renaissance. Et les Français, selon la phrase, eh bien, ont ensuite adopté et imité ces innovations. Le mot qui suit est le mot ambition. Dans la phrase où Johan dit « Moi, j'ai eu la chance de le visiter en 2006 avec Céline et on a l'ambition d'y aller avec les enfants. » Donc ce mot ambition, eh bien, ça désigne un désir fort ou un projet que l'on souhaite réaliser. Donc ambition, dans cette phrase, signifie que Johan et Céline ont le projet, l'intention ferme de retourner visiter cet endroit, donc le musée du Louvre, mais cette fois-ci avec leurs enfants. C'est une aspiration, c'est un souhait qu'ils espèrent pouvoir accomplir. Le mot qui vient après est le mot arboré. Dans la phrase, donc ce serait à l'origine du petit sourire arboré par Mona Lisa, par ce fantastique tableau. Donc arboré, ça signifie afficher, ou encore porter avec certaines fiertés, une manière, disons, visible. Et ici, eh bien, quand on dit arboré, ça décrit en fait le sourire de Mona Lisa qui indique que ce sourire est affiché ou montré par elle dans le tableau. Et en d'autres termes, eh bien, ce petit sourire que l'on voit sur le visage de Mona Lisa dans le tableau est ce qui est en fait évoqué. Le mot qui suit est le mot mythe. Dans la phrase, tout ce mythe, tout ce mystère qu'il peut y avoir autour de la Joconde, ça contribue au fait que ce tableau soit si célèbre. Donc le mythe, eh bien, ça désigne une histoire, une croyance ou une idée qui est largement répandue, qui peut être fictive ou même exagérée, d'accord, et qui entoure, eh bien, un sujet qui lui confère, qui lui donne disons une aura assez spéciale, un sentiment assez légendaire. Donc ici, quand on parle d'un mythe, eh bien on fait référence aux récits, aux spéculations, aux légendes qui entourent la Joconde, parce qu'il faut savoir que voilà, il y a plein d'histoires, il y a plein de légendes, il y a plein de spéculations aussi. Les gens, voilà, se font leurs propres idées autour de la Joconde, et du coup ça renforce le mystère, ça renforce l'intrigue autour de ce tableau. Et c'est ce mystère, c'est cette intrigue qui n'a jamais été résolue, qui ne le sera probablement jamais, qui contribue en fait à la renommée et à la célébrité de cette œuvre. Voyons maintenant ce que signifie le mot mélancolie. Dans la question, est-ce que c'est un sourire qui montre de la tristesse, de la mélancolie ? Donc mélancolie, eh bien, ça désigne un sentiment de tristesse, une tristesse assez douce, mais assez profonde, qui est souvent associée à la nostalgie, ou à une sorte en fait de vague à l'âme, entre guillemets. Donc ici, quand on parle de mélancolie, ça fait référence à l'état émotionnel assez complexe, où en fait la tristesse, elle est mêlée à un certain charme, à une certaine réflexion introspective, d'accord ? Quand on dit qu'on est mélancolique, eh bien, c'est un sentiment de tristesse qui est assez, voilà, assez personnel à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord ? Et cette phrase, eh bien, ici, elle s'interroge sur la nature du sourire, d'accord ? Et on, du coup, on se demande si ce sourire, il exprime non seulement de la tristesse, mais aussi, pourquoi pas de la mélancolie, ou pourquoi pas de la joie ? Voilà, c'est vraiment... Ce sourire, en fait, mène au questionnement. Le mot qui suit est le mot postérité. Donc ça rajoute énormément au mystère et à la postérité de cette œuvre. Alors, postérité, ça désigne la renommée, ou encore la mémoire, ici, de l'œuvre qui perdure à travers le temps, au-delà de la vie ou de l'époque de celle-ci. D'accord ? Donc ici, postérité, ça fait référence au fait que la Joconde est non seulement célèbre aujourd'hui, mais qu'elle continuera à être reconnue et admirée par les générations futures. Donc le mystère qui entoure l'œuvre, c'est ce qui contribue, comme je vous le disais auparavant, au fait qu'elle est connue depuis longtemps, qu'elle continuera de l'être, et qu'elle l'est également d'ailleurs aujourd'hui. Le terme suivant est ambition patriotique. Alors effectivement, ce terme, on l'a déjà vu dans un précédent module. Je ne sais plus si c'était celui d'avant ou encore le module 109 ou le module 108, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on l'a vu ensemble. On a aussi parlé de Vincenzo Perugia, ou Perugia, je ne sais pas exactement comment on le prononce en italien. Donc je vous laisserai consulter les modules précédents si vous voulez en savoir plus à son propos. Mais ici, donc ambition patriotique, eh bien dans le contexte, ça signifie tout simplement que Vincenzo Perugia, il a volé la Joconde par amour pour son pays, donc par amour pour l'Italie, et dans l'idée en fait de la rapatrier là où il pensait qu'elle devait se trouver. Donc il a toujours cru que ce chef-d'œuvre italien devait appartenir à l'Italie, et donc son acte était motivé par un sentiment de patriotisme. Donc je vous rappelle, il a volé en fait la Joconde, donc il avait le désir de faire ce qu'il pensait être juste pour son pays. Donc ses ambitions patriotiques, eh bien c'était le désir de ramener le tableau en Italie, qu'il considérait en fait comme son lieu légitime. Le mot suivant que j'ai sélectionné est le mot incontournable, mais je viens de me rendre compte qu'on l'a déjà vu au début du fichier. Donc là, c'est dans une autre phrase, dans la phrase « Une autre œuvre incontournable du musée du Louvre », c'est le scribe accroupi. Donc juste, petit aparté rapide pour vous rappeler ce que ça signifie. Donc le mot incontournable, eh bien ça signifie qu'il s'agit d'une œuvre indispensable à voir ou très importante. Donc ici, incontournable, ça indique que le scribe accroupi, c'est une pièce majeure du musée du Louvre, une œuvre qu'il ne faut absolument pas manquer lors de votre visite en raison de sa valeur qui est historique, qui est artistique et qui est même culturelle. Passons au mot suivant, le mot incrusté. Dans la phrase, on voit que cette statue nous semble vivante, en fait, et cet effet a été donné par les yeux qui ont été incrustés dans du cristal de roche. Donc le mot incrusté, eh bien ça signifie que les yeux ont été insérés, qu'ils ont été encastrés de manière fixe et permanente dans la statue. Donc incrusté, eh bien ça décrit vraiment la technique qui est utilisée pour placer les yeux faits de cristal de roche dans la statue. Donc ça donne vraiment l'impression que la statue est vivante. Et le mot évoque en fait l'idée que ses yeux, ils ont été soigneusement insérés dans la structure de la statue pour justement créer cet effet assez réaliste. Le mot suivant est le mot attribut. Dans la phrase, parce que les attributs de Vénus, c'est la pomme et le bouclier, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc le mot attribut, eh bien, ça désigne les objets ou encore les symboles qui sont de manière traditionnelle associés à une figure, à une divinité, à un personnage mythologique par exemple, et qui permettent de les identifier. Donc ici, quand on parle d'attribut, eh bien, on fait référence à la pomme et au bouclier, qui sont des symboles couramment associés à Vénus, qui était la déesse romaine de l'amour et de la beauté, et donc ces attributs aident à reconnaître et à représenter Vénus dans l'art et la mythologie. Voyons maintenant ce que signifie notoriété dans la phrase, donc du coup, toute cette part de mystère, ça ajoute un petit peu de notoriété à cette œuvre fantastique que tu peux voir dans le musée du Louvre. Donc ce mot, eh bien, ça désigne le fait d'être largement connu ou reconnu par un grand nombre de personnes, souvent avec une connotation, eh bien, positive. Ici, quand on parle de notoriété, ça signifie que le mystère qui entoure l'œuvre contribue à sa célébrité, à sa réputation. D'accord ? Donc le mystère, il accroît l'intérêt du public pour cette œuvre, et ça a augmenté, et ça augmente d'ailleurs toujours aujourd'hui, sa renommée et son statut dans le monde de l'art. Le mot suivant est le mot « proue » dans la phrase, et on voit au niveau de la base de la statue que c'est la proue d'un bateau. Donc ce mot, eh bien, il désigne la partie avant d'un bateau, celle qui fend les vagues quand on navigue, et ici la proue, elle fait référence à la partie avant du bateau qui est représentée à la base de la statue. Donc ça signifie que la statue, elle est posée sur une base sculptée en forme de la partie avant d'un navire. Voyons maintenant ce que signifie le mot « commémorer ». Dans la phrase, elle a été conçue finalement pour honorer la déesse Niké, probablement pour commémorer une victoire navale, mais on ne sait pas trop. Donc « commémorer », eh bien, ça signifie « célébrer », rendre hommage à un événement ou à une réalisation importante par des moyens tels que des monuments, des cérémonies, des œuvres d'art, etc. Donc, commémorer, lorsqu'on commémore quelque chose, eh bien ici, ça indique que la statue, elle a été créée pour marquer, pour célébrer une victoire navale spécifique en l'honneur de la déesse Niké qui est associée à la victoire. Donc, l'idée, c'est que la statue, elle sert de souvenir, elle sert d'hommage à cet événement marquant. Dans la phrase suivante, il y a deux mots que j'aimerais expliquer, c'est le mot « emblème » et le mot « art hellénistique ». Donc dans la phrase, c'est une statue qui reflète ou qui est vraiment un emblème de l'art hellénistique. Donc le terme « emblème », eh bien ça signifie un symbole représentatif ou encore un exemple caractéristique. Donc ici, quand on parle « emblème de l'art hellénistique », eh bien ça désigne que la statue est un exemple particulièrement représentatif ou que c'est un symbole majeur de l'art hellénistique et ça signifie que la statue, eh bien, elle incarne, elle illustre des caractéristiques typiques de l'art de cette période. Et elle est donc, eh bien, un modèle ou un symbole qui est significatif de ce style artistique. Et donc l'art hellénistique, eh bien, ça fait référence à la période de l'histoire de l'art grec, notamment, qui a suivi la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ et qui s'est étendue jusqu'à la conquête romaine de la Grèce en 146 avant Jésus-Christ. Voilà pour la petite aparté historique. Le mot suivant est le mot « inspiré ». Dans la phrase, les ailes de la déesse Niké ont probablement inspiré les gens qui ont créé le logo de cette fameuse marque sportive. Donc le mot « inspiré », eh bien, ça signifie que les ailes de la déesse Niké, elles ont servi de source d'influence, de source d'inspiration, de modèle pour la conception du logo de la marque. Donc ici, « inspiré », ça indique que les créateurs du logo de la marque sportive, que vous connaissez tous, ont peut-être été influencés, ont peut-être été motivés par l'image des ailes de Niké, la déesse de la victoire, pour concevoir leur logo. Donc ça suggère en fait que l'idée ou le design en fait des ailes a vraiment joué un rôle dans l'élaboration du logo. Ensuite, le mot suivant est l'imaginaire commun. Dans la phrase, dans l'imaginaire commun, parfois on se dit « il y a eu une révolution de 1789, tout a été fini ». Donc l'expression « imaginaire commun », eh bien ça fait référence aux idées, aux croyances, aux représentations. Donc quand on parle d'imaginaire commun, eh bien ça désigne la vision, la perception collective que les gens ont de certains événements historiques. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de la façon dont la Révolution française de 1789 est souvent perçue comme un point de rupture complet où tout aurait changé de manière définitive, alors que ce n'est pas le cas, d'accord ? Il n'y a pas eu qu'un seul mouvement révolutionnaire en 1789, il y en a eu plusieurs par la suite. Donc cette perception partagée, elle influence la manière dont les gens comprennent et se souviennent de l'histoire. Ensuite, voyons ce que veut dire la monarchie constitutionnelle. Donc, dans la phrase, on a voulu arrêter cette monarchie absolue, on est passé à une monarchie un peu plus douce, une monarchie constitutionnelle. Eh bien, ça désigne en fait un système de gouvernement où le pouvoir du monarque est limité par une constitution ou des lois et où il existe souvent un partage du pouvoir entre, eh bien, le monarque et l'organe législatif. Le mot qui vient après est l'allégorie. Dans la phrase, la femme, c'est l'allégorie ici de la liberté. Alors, cette phrase fait également partie du fichier prononciation. Et donc, le mot allégorie, eh bien, ça désigne une représentation ou une illustration symbolique d'une idée qui est assez abstraite à travers un personnage, une image, un récit, une œuvre, etc. Donc ici, allégorie, eh bien, ça signifie que la femme, elle est utilisée comme un symbole, comme une représentation de la liberté. Donc en d'autres termes, eh bien, la femme, elle incarne, elle exprime l'idée de liberté de manière visuelle, de manière symbolique, ce qui permet de comprendre et également de transmettre ce concept abstrait à travers une image, à travers un personnage. L'avant-dernier mot de ce fichier est « gamin des faubourgs ». Dans la phrase « à droite de la femme, on a un gamin des faubourgs » qui va inspirer Victor Hugo dans son livre « Les Misérables » avec le personnage Gavroche. Cette phrase fait également partie du fichier « prononciation ». Donc ici, gamin des faubourgs, eh bien, ça fait tout simplement référence, ça désigne un jeune garçon ou un enfant venant des quartiers populaires, des périphéries d'une ville, et c'est souvent associé à des conditions de vie modestes, voire même difficiles. Et enfin, le mot suivant, qui est le dernier mot, ou plutôt une expression, qui est porté par le vent. Dans la phrase « et n'hésite pas, une fois sur place, à marcher dans différents endroits pour te laisser surprendre tout en étant porté par le vent ». Donc dans ce contexte, eh bien, « porté par le vent », ça signifie se laisser guider naturellement, de manière fluide, de manière spontanée, où le vent nous guidera, entre guillemets, le fait de marcher sans vraiment savoir où l'on va et se laisser, eh bien, aller au fur et à mesure des découvertes. Et voilà, comme je vous le disais, c'était notre dernier mot de ce fichier. J'espère que cette partie vocabulaire du module vous aura aidé à mieux le comprendre, à mieux l'appréhender. Donc n'hésitez pas à le réécouter en parallèle du module pour vous faciliter la compréhension par exemple. N'hésitez pas non plus à l'écouter en même temps que vous faites le fichier prononciation, puisque dans le fichier prononciation, les phrases que vous prononcez contiennent toutes du vocabulaire qui est expliqué dans ce fichier vocabulaire. N'hésitez pas non plus à prendre des notes si vous en avez besoin de certains mots, de certaines expressions un peu difficiles dont vous aimeriez vous rappeler. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de nous solliciter en dessous du module. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très vite.